This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Kevin Dieter, vous êtes doctorant. Vous êtes sur le point de terminer votre thèse. Titre de votre thèse, c'est l'enfance des sentiments. Enfin, c'est le titre provisoire. L'enfance des sentiments. La construction et l'intériorisation des représentations genrées et androcentrées de l'amour chez les enfants de 6 à 10 ans. C'est un grand titre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, j'essaye de comprendre en un mot comment les enfants apprennent à aimer. Et en fait, on voit que cet apprentissage est différent en fonction des garçons et des filles. Et que de toute manière, on pense souvent le sentiment amoureux du côté des hommes, c'est ça que veut dire androcentré. Et donc moi, le but de ma thèse, c'est de comprendre comment vient l'amour aux enfants et comment les visions de l'amour différenciées sont intériorisées par les garçons et par les filles.
Voilà, vous voulez dire que ça n'est pas du tout naturel ? Pourtant, il n'y a rien qui a l'air plus naturel que des émotions et les sentiments. Ça s'apprend ?
Bah oui, quand on regarde la littérature aussi scientifique, beaucoup, notamment en philosophie, en neuro-cognitif, enfin dans les sciences neuro-cognitives ou cognitives, et aussi en psychologie, font de ce sentiment-là un sentiment naturel. Or, on a pu s'apercevoir, ne serait-ce que quand on regarde en France au cours de l'histoire ou dans d'autres pays, que ce sentiment-là n'est rien de naturel, qu'il a été progressivement construit, que le fait que ce soit qui s'exprime de telle ou telle manière et pas de telle autre est un fruit de l'histoire et donc est éminemment social et culturel. Et donc moi, le but de ma recherche, c'est de montrer comment les enfants apprennent à aimer, donc à aimer l'amour amitié et l'amour amour, comme eux-mêmes font la différence, et aussi et surtout c'est de voir comment cette représentation de l'amour vient à s'imposer avec l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence, pour reprendre une phrase de Thierry Bloss, c'est-à-dire comment les enfants viennent à percevoir ce sentiment comme étant naturel. En fait, c'est pas tant que le sentiment qui est naturel que sa perception.
En fait, l'amour n'a rien de naturel, mais a l'air naturel.
En fait, c'est que moi, ce que j'essaye de montrer, c'est de voir comment, en fait, les enfants apprennent ce sentiment-là et l'apprennent de manière différente en fonction de leurs caractéristiques et positions sociales et de leur genre, bien évidemment aussi.
Donc les petits garçons n'apprennent pas du tout la même chose que les petites filles sur les sentiments amoureux.
Surtout sur leur expression, exactement. Ils ont à peu près la même, ils savent ce qu'est l'amour, ils ont à peu près la même définition, mais ils cantonnent cet amour-là, comme vous avez dit, c'est un truc de fille, puisqu'ils arrivent, enfin, pour eux, l'amour a été défini principalement comme quelque chose de féminin. Et ils apprennent à se distinguer de ça pour valoriser leur identité à eux, qui est masculine, qui n'est donc pas féminine.
Comment vous avez travaillé concrètement ? Comment est-ce qu'on travaille sur un sujet comme ça ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, pour aller questionner l'amour et l'amitié chez les enfants, le plus simple, ça a été de leur demander directement. Donc, j'ai été faire une enquête ethnographique donc dans deux établissements scolaires parisiens pendant un an. Donc, c'était une école élémentaire et un centre de loisirs. Et j'ai, à raison de trois jours par semaine en moyenne, j'ai été avec les enfants dans la cour, en classe, j'ai discuté avec eux. J'ai été présenté aux enfants par les directeurs et par les enseignants comme étant le spécialiste de l'amour et de l'amitié. Donc les enfants venaient me voir pour parler de ça ou pour parler d'autres choses d'ailleurs, mais souvent ils venaient me voir, notamment les petites filles, pour me faire corriger leur lettre d'amour, pour me demander des conseils sur l'amitié, et notamment pourquoi une telle ou un tel avait été méchant avec elle, n'avait pas laissé jouer, qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer ça, etc. etc. Donc voilà, ils venaient me parler de leur vie quotidienne à eux, telle qu'il a, enfin, parce que l'amour et l'amitié, mine de rien, occupent une large place, même au sein du temps scolaire, pendant les périodes de récréation, etc. Parce qu'il n'y a rien de pire pour les enfants que d'être tout seul dans une cour, quoi.
Donc vous avez passé combien de temps en tout dans ces écoles ?
En termes d'heures, je dirais que c'est 1000 heures à peu près avec les enfants, comptant aussi j'étais invité toutes les festivités de l'école et aussi pendant les voyages de fin d'année. Donc je suis resté en gros, ouais c'est ça, 1000 heures. Donc j'étais toutes les vacances aussi scolaires avec ceux qui étaient en centre de loisirs. Donc non, je les connaissais assez bien. Et j'ai donc, une fois que je les connaissais bien, j'ai pu ensuite faire des entretiens avec eux, avec leurs parents, pour justement aller creuser, alors que l'enquête ethnographique me permettait de voir vraiment comment ils se comportent. Là, je pouvais avoir leur représentation de ce que c'était amour, ce que c'était d'être amoureux, être ami, la différence, comment ils choisissaient leurs amoureux ou amoureuses respectives, etc.
À quoi ça ressemble une cour de récréation aujourd'hui ?
Une cour de récréation, quand on regarde d'un œil un petit peu extérieur, on a l'impression que c'est un grand brouhaha où il y a énormément d'enfants qui courent dans tous les sens, etc. Ça apparaît comme quelque chose d'anarchique, de très désorganisé. En fait, c'est très 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 organisé, une cour de récréation.
Ah oui ?
On s'en rend pas compte comme ça, mais si vous voulez, je pourrais vous faire un dessin où la cour dans laquelle j'étais était ronde. Au milieu, il y avait une sorte de préau où on pouvait jouer au foot. Alors ce préau-là, c'était le coin des CM1, CM2 et garçons. C'est là où ils jouaient au foot. Ensuite, plus loin, il y avait le coin des filles CM1, CM2 qui pouvaient discuter entre elles, un coin calme, etc. Mais en fait, quand on regarde vraiment l'espace de la cour de récréation, on voit qu'il est divisé à la fois par âge et par sexe. C'est-à-dire que les garçons, généralement, sont d'un côté, les filles de l'autre. Et ensuite, plus on avance en âge, plus on est dans le centre de la cour, et puis les petits sont généralement, les petits et notamment les petites filles sont à la périphérie de la cour.
Elles sont dans les coins en fait.
Ouais, dans les coins, là où elles ont. Là où c'est. Il n'y a pas. Enfin, c'est les derniers morceaux de choix en fait. C'est d'abord les grands qui choisissent, d'abord les grands garçons, ensuite les grandes filles, et ensuite c'est les petits.
Et les petites filles. D'accord.
Et
de quoi ils parlent et que font les enfants dans les cours de récréation ?
Ça dépend. Alors, il y avait beaucoup de gens, de garçons qui, les grands jouaient au foot, vraiment, avec les CM1, CM2 et parfois les CE2, ceux qui étaient très forts pouvaient, si on était très fort en foot, ça pouvait nous faire passer la barrière de l'âge. Ensuite, les filles, elles, beaucoup faisaient, à l'époque, il y avait Violetta et donc beaucoup faisaient des reprises de Violetta avec ses chansons, etc.
Je suis désolée.
Ne le sois pas.
Pardonne-moi, Léon, tu essayais de me protéger et je ne t'ai pas écouté, je te demande pardon.
Tu n'as rien fait de mal. C'est plutôt à Diego de te demander pardon.
Non. Tout ça, c'est de ma faute, Léon, j'arrive pas à y croire.
Arrête,
j'arrive
tu n'as rien à te reprocher dans cette histoire.
J'ai tout fait pour t'éloigner de moi, tu te rends compte ?
Mais en fait, ce phénomène-là, je sais pas comment dire, mais c'est l'équivalent de Hélène et les garçons pour mon époque ou pour les plus jeunes, ça pourrait être Hannah Montana, mais c'est vraiment donc c'est une chanteuse, Violetta, qui a eu des... Alors, je me souviens plus exactement, mais je crois que sa mère était chanteuse et morte, et elle va contre l'avis de son père, dans une école de danse et de chant pour pouvoir faire ça. Puis après, on suit toutes les tribulations l'apparition de Violetta et surtout là ce qui est vraiment mis au centre de l'œuvre, au-delà de la danse et des chansons, c'est ces histoires d'amour et d'amitié, de concurrence avec les autres filles et garçons, voilà. Donc globalement, et elle s'amusait à refaire les chorégraphies, à rejouer les histoires qui s'étaient passées la veille dans le soap opéra qui a lieu tous les jours, etc. Et c'était vraiment elle reprenait à leur compte ça et beaucoup avaient des cahiers avec les histoires de Violetta, avec où elle s'échangeait aussi des images, etc., etc. Donc,
et les garçons, ils en pensent quoi?
Alors les garçons, pour eux, c'est alors comme c'est quelque chose qui est pour les filles, si c'est pour les filles, c'est que c'est contre les garçons. Donc eux, ils les mettent vraiment à distance. Et il y a eu plusieurs fois où ils ont manifesté leur dégoût de la série. Et quand je dis manifesté, c'est dans les deux sens du terme, où ils leur disaient concrètement que c'était nul, c'était de la merde, il fallait qu'elles arrêtent de faire ça. Mais autrement, il est arrivé parfois dans la cour de récréation que s'organisent de véritables manifestations où on voyait les garçons de CM1, CM2 prendre la cour et puis dire on en a marre de Violetta, on en a marre
avec
de...
Avec des pancartes ?
Bah, où ils faisaient semblant. Mais en tout cas, ils levaient les poings en disant on en a marre, on en a marre, on en a marre, et ils tournaient tout au long de la...
Ils faisaient une manifestation anti-Violetta.
Anti-Violetta. Mais les filles parfois répliquaient en faisant des manifestations contre les garçons. Mais ça, c'était pour répliquer contre cette attaque.
Elles disaient on en a marre des garçons.
Voilà, c'est ça. C'est nul les garçons, c'est mieux d'être des filles, etc.
Donc il y avait. N'empêche que c'est tout ce dont, enfin, elles en parlent quand même énormément. Des garçons, des relations amoureuses, etc.
Bah, elles en parlent bien plus, ouais, que en tout cas que les garçons. En tout cas, les garçons disent en parler beaucoup moins. Et en tout cas, elles le mettent vraiment plus en scène. Elles, ça les intéresse vraiment. Et d'ailleurs, ça se voit sur, ne serait-ce que sur le vêtement, où il y a beaucoup de cœur, de I love you, et puis elles les mettent vraiment. Encore une fois, elles ritualisent ce sentiment. Enfin, ce que je disais dans un article, c'était qu'elle réutilisait le genre du sentiment, c'est-à-dire que à force de mettre en scène, que ce soit des filles qui mettent en scène l'amour, elles donnent un sexe à ce sentiment-là, à l'amour, elles le font être comme féminin, et s'il est féminin, c'est que par définition il n'est pas masculin.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'un petit garçon typique, comment il voit l'amour, comment il voit les sentiments amoureux, comment il voit ce qu'il est censé être ou ne pas être?
Bah, en fait, c'est difficile de répondre à un garçon typique parce que, en fait, il n'y a pas une seule sorte de masculinité. Il y en a une diversité qui est liée à, entre autres, à la position dans l'espace social,
à la classe sociale,
voilà, c'est ça exactement, qui peuvent être aussi liés à ce qu'on appelle au rapport de race, donc à l'ethnie de la personne, le rapport ethno-racial. Mais en fait, donc c'est difficile de répondre à cette question-là, mais globalement, on voit qu'à travers les classes sociales, le sentiment amoureux est plus ou moins l'objet d'une distinction de genre. Parce que, en fait, comment dire ça plus simplement, ce serait de dire que les garçons n'apprennent pas la même chose des sentiments, n'ont pas la même définition des sentiments en fonction de leur classe sociale. J'ai pas travaillé trop sur la race, donc ça je peux pas exactement vous dire, mais en tout cas en ce qui concerne des classes sociales, c'est qu'on voit très bien que, par exemple, à mesure qu'on augmente dans l'espace social, les petits garçons perçoivent moins le sentiment comme spécifiquement rattaché aux filles. Ce serait quelque chose de qui concernerait également les garçons. Et ça, tout ça, c'est lié aussi à la vision qu'en ont leurs parents et au fait que ces parents participent à l'éducation sentimentale. C'est-à-dire que pour ces parents-là, le sentiment ne serait pas quelque chose ne serait pas quelque chose juste de naturel qui arriverait au moment de la puberté, etc., et qui serait principalement rattaché aux filles. Mais c'est quelque chose qui est bon pour le développement cognitif et social de l'enfant. Donc, ça, c'est peu importe le genre, en fait.
Qu'est-ce qu'ils pensent les petits garçons de l'amour et des relations amoureuses?
Globalement, ils pensent que, donc là où j'avais été surpris, c'est qu'ils sont, ils disent que ça va être quelque chose d'important, mais encore une fois, c'est quand ils seront grands. Ils ont très bien conscience que c'est pas de leur âge, et ils ont aussi conscience que pour le moment, c'est un truc de filles et ou pour les bébés. Les maternelles ont le droit de faire ça, c'est pas un problème, on les autorise. Il y a plein de mariages en maternelle, j'ai même été invité à des mariages.
Des mariages en maternelle.
Oui, il y avait une petite qui était très contente, on lui avait donné une bague, et donc il y avait les animateurs et les professeurs des écoles avaient fait un petit mariage, et voilà. Et donc là, c'est que le sentiment amoureux est à la fois, enfin c'est pas de leur âge, c'est-à-dire c'est soit pour les petits, soit pour les grands.
Ou pour les filles,
voilà, c'est ça. Et donc, quand ils s'intéressent de trop près à ça, et ils ont très bien conscience de ça, ils risquent de mettre en cause leur réputation et donc leur définition de soi en tant que garçon, quoi. Et c'est ça qui les rebute un petit peu, mais à part ça, au-delà de ça, ils ont à peu près la même définition que les filles, ils savent très bien ce que c'est être amoureux, ils emploient à peu près les mêmes mots pour définir ce qui, les gens qui sont amoureux ou pas, mais par exemple, ils en parle beaucoup moins, ils le mettent beaucoup moins en scène, ils pensent que c'est quand même un peu moins important, et surtout à leur âge, que ça les concerne pas, que c'est nul. De toute façon, c'est nul les filles, donc je vois pas pourquoi je serais amoureux. Globalement, les garçons, en fait, perçoivent que, oui, ce qu'ils perçoivent, ils sont à peu près tous d'accord sur ça. Quand je les ai interrogés aussi, j'ai fait un questionnaire, ils sont 70% à dire que oui, forcément les histoires d'amour sont aussi pour les filles, mais les filles sont d'accord avec ça. Les filles et les garçons disent que à 70% dans mon école disent que effectivement les histoires d'amour sont principalement plus pour les filles, quoi.
Et donc les garçons,
comme le sentiment est rattaché à un genre et que le genre est féminin, les filles peuvent l'investir sans trop de problèmes, tandis que si les garçons investissent ça, ils risquent de perdre leur réputation et en transgressant leur genre, en fait. Et sur ça, ils perdront leur place de dominant qui est du côté masculin. Donc, puis après, il y aurait des rappels à l'ordre. Soit ils se feraient traiter de bébé, soit ils diront de fleurs bleues, de fillettes, voire de PD, etc. Puisque, effectivement, étant donné que la féminisation du masculin tombe souvent dans l'homosexualité, ou enfin dans des références à l'homosexualité qui ne seraient pas des vrais hommes, en fait.
Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement une de ces scènes qui vous paraît parlante ou vraiment représentative de
ça? Il y avait un moment, je me souviens, alors ça devait être, c'était le jour de la Saint-Valentin, je crois. Donc là, il y avait énormément de distribution de cadeaux, de lettres, parce que voilà, ils ritualisaient
à l'école.
Oui, tout à fait, où il y avait pas mal, et là c'était le sujet de la cour de récréation et
la Saint-Valentin.
Et est-ce que tu as eu un...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écouter 20 milieux sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.
Valentin ou une Valentine, est-ce que tu as dit que tu étais amoureux, etc., etc. Et à un moment, on est en train de discuter avec des animateurs, on surveillait la cour, et il y a des enfants qui viennent discuter avec nous, deux petites filles de CM1 qui viennent discuter de leur amoureux, etc. Et il y a un garçon qui passe et qui commence à se moquer d'elle en disant t'es amoureux, etc., etc. Et puis il y a l'animateur un moment pour arrêter que le garçon se moque, lui dit moi j'ai entendu dire que t'avais eu une amoureuse. Et puis après les deux autres animateurs qui sont à côté commencent à embêter le garçon, ouais c'est vrai, et puis lui il dit mais non c'est pas vrai, j'ai pas d'amoureuse, et qu'est-ce qui t'a dit ça, et puis il dit moi on m'a dit que c'était Lou qui est amoureuse de toi, qui avait dit à tout le monde, et puis le garçon s'en va en furie en disant ouais c'est pas vrai, et puis du coup étant vexé et qu'on lui dit qu'il avait une amoureuse, etc., il a été voir la Lou en question et l'a tapé.
Il a tapé Lou
qu'on lui avait fait croire que c'était elle qui avait dit à tout le monde que c'était son amoureux, etc., etc.
Et pour lui, c'est vraiment...
C'était quelque chose d'insultant, non pas que ce soit elle qui l'aime particulièrement, mais c'est juste parce que amoureux, c'était pas du tout, il n'était pas amoureux, il n'y avait pas d'histoire d'amour, c'était quelque chose de dévalorisé qu'il n'avait pas. Voilà, clairement, c'était pour lui, on l'insultait, c'était pour se moquer de lui, et c'était pour en fait arrêter qu'il embête les petites filles à la base. Les adultes ont mobilisé cette question au lieu de s'intéresser à s'il avait des amoureux ou pas, ce qu'ils font par ailleurs. Mais généralement, il y a toujours une tendance où quand ils s'adressent aux garçons, c'est juste pour les taquiner, pour les embêter, pour se moquer un petit peu d'eux, parce qu'ils savent que pour eux, l'amour, c'est dégoûtant, que c'est pas que c'est un truc de fille.
Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire des sentiments amoureux chez les petits garçons et les petites filles en prenant en compte leur classe sociale?
Pour résumer, on pourrait dire que j'aime bien l'idée de dire qu'il y avait des livres qui s'appelaient « Il y avait le sexe des sentiments ». Alors moi, je dirais bien que les sentiments n'ont pas qu'un sexe, mais ils ont aussi une classe sociale et un âge.
Donc l'amour, c'est non seulement un truc de fille, mais un truc de classe sociale supérieure.
Voilà, dans l'expression en tout cas, dans l'expression. C'est pas dans le sentiment. Ils ressentent tous tout autant, c'est juste dans le fait de se sentir autorisé à parler de ce sentiment-là et légitime à le montrer. Oui, ça c'est bien plus autorisé, tout simplement parce que les adultes qui les entourent sont bien plus intéressés par ce sentiment-là.
Un jour, ces petits garçons qui ont appris que l'amour, c'était un truc de fille, que s'ils l'exprimaient un peu trop ouvertement, ils allaient se faire remettre à leur place par tout le monde en se faisant traiter de pédé, de fille ou de bébé. Un jour, ces petits garçons deviennent grands. Ça devient des adolescents et puis des hommes. Quel rapport vous voyez entre ce que pensent ces petits garçons et ce qu'ils pensent ensuite quand ils deviennent grands?
C'est une question intéressante qu'on m'a beaucoup posée aussi et à laquelle j'ai un petit peu de mal à répondre, c'est-à-dire que parce que moi, donc le processus qu'on regarde là, ça s'appelle de la socialisation, c'est l'apprentissage des normes, des représentations, des savoir-être et savoir-faire des individus tout au long de leur vie. Et en fait, moi je suis que je peux pas, enfin c'est difficile de projeter, de savoir comment ils vont venir, parce qu'il y a pas mal d'autres instances de socialisation qui pourront moduler ce qu'ils ont appris. Mais globalement, autrement, si on se base sur la littérature qui a été faite après moi, auprès de avant moi et auprès de gens plus âgés, on peut voir que oui, ça a des conséquences, ne serait-ce que dans l'ouvrage de Eva Illouz, Pourquoi l'amour fait mal, et c'est là où les gens se plaignent d'un investissement différentiel dans les relations. C'est-à-dire que les garçons et les filles, ou les hommes et les femmes, ne s'investissent pas autant émotionnellement, ils ne parlent pas autant, ils ne montrent pas autant leur leurs sentiments l'un que l'autre dans la relation, et ça fait une sorte de déséquilibre où parfois les mères aussi me disaient ça, où montrer ses sentiments c'est pas trop son truc, c'est un peu dur de lui faire savoir ce qu'il ressent, etc. ça peut amener à ça en fait. Ce que je vois, ça veut dire qu'on pourrait dire que déjà petits ils apprennent à réserver à réserver la gestion de leurs sentiments en interne, en fait, à pas l'exprimer, quoi.
Et donc même pas peut-être en avoir conscience parfois.
Ah bah oui, après ils peuvent, ça peut, en fait, plus on vous rabâche une même chose, ce qu'on vous rabâche ou ce qu'on vous fait vous paraissent naturel, puisqu'il n'y a pas d'autre solution possible, en fait. Et c'est pour ça que comme on parlait tout à l'heure, et puis j'avais mentionné la phrase que je trouve très belle de Thierry Bloss, et qui fait penser à d'autres sociologues type Bourdieu, c'est-à-dire quand quelque chose s'impose avec l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence. En fait, plus on vous socialise de la même manière à un objet, à l'amour, etc., plus pour vous, ça va vous paraître naturel et évident que ça marche comme ça.
Qu'est-ce que vous avez appris en tant que com'? En travaillant sur ces sujets, parce que c'est pas indifférent d'être un homme ou une femme et de travailler sur la socialisation des sentiments amoureux, notamment chez les petits garçons.
Alors j'ai deux types de réactions globalement qui sont aussi très genrées pour le coup. Et généralement, quand je présente mon sujet, puis j'ai appris à le présenter au fur et à mesure, c'est les filles généralement retiennent, les femmes retiennent le côté mignon. Du sujet, ouais, c'est super intéressant, c'est quelque chose d'important, c'est super mignon, tu dois vraiment bien t'amuser, etc., à s'intéresser à ça. Et globalement, les garçons, et même chez les chercheurs, c'est plutôt le côté pédophile qui revient. Les nombres de blagues pédophiles que j'ai entendues au cours de ma thèse, mais même lors dans des réunions scientifiques ou même à mon école doctorale, où quand même certaines personnes, même si c'est pour se moquer de moi, m'appelaient le pédophile quand même, quoi, parce que je m'intéressais à l'amour chez des enfants. Et un homme qui s'intéresse à des enfants, il y a toujours un soupçon, pourquoi vous vous intéressez à ça? Et deuxièmement, en plus, je questionne leur intimité, quoi, leur intimité. Et amour, comme l'amour et la sexualité sont quand même vraiment liés, notamment dans les représentations actuelles. Là, il y avait les blagues sur les pédophiles, j'en ai eu un paquet. Et puis même, quand je négociais, j'ai eu des terrains qui ont été interdits par des directeurs des DAZEN. Donc, c'est les personnes en charge des écoles élémentaires au niveau départemental, qui m'ont soupçonné de pédophilie, quoi, en disant, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet-là, quoi? Je comprends que ça intéresse votre directrice de thèse, mais vous? J'étais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, pourquoi ça m'intéresse? Parce que je trouve que le sujet est intéressant en soi, dans la mesure où les sentiments, c'est quelque chose qui naturalise des rapports de domination, en fait, quelque part, et notamment la domination masculine. Et donc, c'est intéressant en soi d'aller déconstruire ce sentiment-là pour montrer que ce n'est pas naturel, que ça a été construit de manière inégalitaire et que c'est tout le temps les femmes qui sont dans des dépendances, etc., etc. Mais ça ne leur parlait pas.
Et vous, en tant que com, est-ce que ces recherches ont changé votre regard sur vous-même en tant qu'homme?
En tout cas, elles m'ont appris à savoir pourquoi j'avais eu un rapport, pourquoi j'ai ce rapport-là aux sentiments amoureux et amicaux. Oui, ça c'est sûr. En fait, ça donne une explication à mon rapport à l'amour et à l'amitié, oui.
Mais c'est-à-dire?
C'est-à-dire que je comprends en fait pourquoi j'ai par exemple un peu plus de mal à exprimer mes sentiments que d'autres, parce que on m'a pas appris, ou en tout cas quand j'étais petit, c'était pas quelque chose qu'on parlait facilement, etc. Et pareil dans mon entourage jusqu'au lycée, jusqu'à même à la fac, c'était un sujet très peu abordé, et maintenant ça l'est un peu plus puisque je suis dans une équipe de genre qui s'intéresse à ces questions-là. Mais autrement, voilà, oui, c'est sur ça m'a appris, en tout cas, à me faire une, on pourrait dire, il y en a qui font des psycho, enfin de l'analyse. Moi, c'est une socio-analyse, c'est-à-dire pourquoi j'ai un rapport comme ça, qu'est-ce qui explique mon rapport au sentiment amoureux, etc. Ça me donne des informations plus générales sur moi aussi, en étudiant les autres.
En quoi l'amour, en quoi cet apprentissage différent de l'amour pour les garçons et pour les filles, ça contribue à perpétuer la domination masculine?
Alors, les sentiments amoureux, là, il y a eu pas mal de recherches dans les années 70 faites par des féministes, et puis un peu plus récemment, là en France, Michel Bozon a travaillé sur le sujet, qui montrait que l'amour est participe à la domination et la reproduction de la domination masculine dans la mesure où il y a un investissement différentiel dans le couple et dans le sentiment des hommes et des femmes. C'est-à-dire que, en fait, les femmes sont plus investies et sont plus dépendantes émotionnellement. En tout cas, on leur demande plus ça, de s'investir dans le côté affectif, etc. Donc, que les hommes. Et donc ça contribue à reproduire la domination masculine dans la mesure où les femmes dans les couples sont dépendantes. Donc à l'époque, dans les années 70, c'était économiquement et sentimentalement des hommes.
Et eux le sont moins.
Le sont moins, en tout cas, ils sont moins, on leur demande moins de s'intéresser à... En fait, ils mettent pas... En fait, ils s'investissent... Enfin, comment dire ça, c'est pas qu'ils s'investissent moins, c'est-à-dire moins de... ouais, moins de temps, moins de
d'énergie,
moins, en fait le couple est moins central chez eux, que et le bien fondé du couple et etc. est moins important chez eux que chez les femmes, pour qui, enfin, encore une fois, quand on vous apprend depuis tout petit que c'est très important, que ça participe à la définition de soi des femmes, d'avoir un mari, d'avoir, enfin, ouais, d'être femme et d'être, enfin, pour être femme, il faut être aussi mère, et donc c'est tout est dans la cellule familiale, l'investissement. Donc, l'amour, en ce sens-là, participe à rendre quelque chose égalitaire. Mais en fait, chez les sociologues aussi reconnus soit-il, type Pierre Bourdieu, Bourdieu avait l'impression que dans l'amour, il n'y avait pas de rapport de domination, que c'était ce qui pouvait... l'amour pouvait traverser les barrières sociales, etc. Alors que non, en fait, l'amour permet aussi de reproduire une sorte de domination, et notamment la première domination, c'est la domination masculine, puisque on n'attend pas la même chose, le même investissement dans la relation entre les hommes et les femmes. Et ça, ils apprennent ça depuis tout petit, en fait. Depuis tout petit, sur ce qu'on disait tout à l'heure, avec les filles qui doivent exprimer leurs sentiments, qui doivent les gérer, qui doivent... c'est elles qui font le travail émotionnel, qui s'occupent du couple, en fait.
Qu'est-ce que ça serait une éducation sentimentale qui serait égalitaire? Si vous aviez des garçons, des fils, comment vous les éleveriez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Les éduqueriez à l'amour et au sentiment amoureux?
Alors, ouais, alors je pense qu'il n'y a pas que les parents qui peuvent faire ça, mais oui, alors bah, j'essaierais de défaire effectivement le genre du sentiment amoureux, de leur dire que c'est tout aussi important pour eux, etc. Mais ça, c'est lié à ma position, hein, sociale aussi. Mais autrement, je pense que, enfin, d'une manière plus globale, j'inviterais aussi à, dans les manuels d'éducation, etc. Mais c'est marrant parce que, enfin, juste ça, quand on dit, quand on pense aux littératures pour jeunesse, au Max et Lily, par exemple, on dit que Max a une amoureuse et que Lily est amoureuse. C'est pas la même chose, quoi. Donc Max a une amoureuse, Lily est amoureuse.
Mais concrètement?
Bah concrètement, ce serait juste de dire, quand on dit de pas questionner exclusivement les filles quand on leur demande est-ce que t'as un amoureux, alors que c'est pas exactement la première question qu'on pose aux garçons. En tout cas, moi, si je voulais rendre ce sentiment-là plus accessible aux garçons, ce serait de clairement faire perdre relativement, enfin de faire perdre son âge et son genre, quoi, et de dire oui, les enfants, je suis persuadé, et puis même je l'ai vu, oui, connaissent les sentiments amoureux, même si ils savent, même si c'est pas exactement le même sens qu'ont les adultes, il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent, et que oui, peuvent, et puis qu'ils peuvent connaître ça, et que c'est absolument pas gênant pour qu'un garçon tombe amoureux d'un autre garçon ou d'une fille. C'est pas gênant du tout, que ça fait partie d'un apprentissage global de la vie en société, quoi. Enfin, des relations. Après, notre question, c'est est-ce que l'amour devrait être au centre des vies? Ça faudrait voir chez les philosophes, mais moi, en tout cas, ça me gênerait. Enfin, pour éviter de trop rattacher au féminin, il faut dégenrer tout, en fait. C'est-à-dire ne pas exclusivement associer des jeux de société qui sont là pour l'entretien et la gestion des relations affectives et amoureuses, que de les mettre que du côté féminin, de les faire aussi du côté masculin. À chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, de ne pas dire que c'est une fille qui est amoureuse, mais que ça peut être un garçon qui est amoureux aussi, etc., etc.
Et est-ce que pour terminer, vous avez des œuvres que vous aimeriez recommander ?
Alors,
qu'est-ce que vous avez vu dernièrement ? Alors,
moi, j'avais beaucoup aimé c'est un film qui s'appelle Tomboy. Alors, la réalisatrice, c'est Céline Sciamma. Alors, je recommanderais globalement tous ces films qui sont vraiment intéressants, puisqu'elle a une perspective féministe. Elle questionne le genre en général, mais dans Tomboy, elle questionne aussi féminité, masculinité, notamment parce qu'il y a une sorte de transgression du genre, puisque c'est une petite fille qui se fait passer pour un garçon, et on suit ces histoires, ce qui est vraiment, enfin, que je trouve vraiment une très belle histoire, et on voit aussi d'un point de vue des normes de genre qu'est-ce qui se passe avec d'autres enfants, avec les parents, etc. Donc je recommande ce beau film là et voir toute la filmographie de Céline Sciamma.
Merci beaucoup, Kevin Villard.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
C'était Les couilles sur la table, un podcast de Binge Audio. Dans le prochain épisode, on va bien sûr continuer à parler des garçons, des hommes et de leur socialisation. Il sera entre autres question d'éponges et de chaussettes avec la fabuleuse Titu Lecoq. Si vous avez aimé cette conversation, recommandez-la autour de vous à vos amis, pères, frères, cousins. On a une page Facebook, un compte Twitter, likez donc et suivez-nous. Et si vous pouvez noter le podcast sur iTunes, plutôt Apple Podcast, de préférence avec 5 étoiles, c'est encore mieux. Toutes les références sont à retrouver sur binge.audio. Bisous.
Binge.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.